en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, il m'appartient évidemment de vous remercier et de vous dire à quel point je suis honorée que vous m'accueilliez parmi votre noble assemblée et que vous acceptiez d'écouter et de partager, de m'écouter partager mon expérience de chef d'entreprise. Et effectivement, pendant 7 ans, j'ai été au comité exécutif d'une entreprise globale, leader de son marché dans le domaine des solutions pour l'emploi, ce qui m'a donné un territoire d'observation qui n'est évidemment pas académique sur ce monde du travail qui bouge de façon importante dans le monde et qui est un sujet important pour la France et l'avenir de la France. Alors, la France est dépressive, elle a peur du futur et de la mondialisation. Le fonctionnement dual du marché du travail en France, qui privilégie les insiders au détriment des outsiders, est un facteur qui contribue, je le crois fortement, à ce sentiment collectif que l'avenir sera moins bien que le passé. Dénouer ce blocage de la France, qui ne se projette pas dans son avenir, passe, je le crois, par beaucoup de choses, mais entre autres, par réformer son marché du travail. Alors, depuis le printemps, nous prenons conscience de la démoralisation collective de la France. Les sondages se sont multipliés et ils décrivent une France inquiète, face à l'avenir, quelquefois résignée, quelquefois en colère. On voit cité par le rapport du Centre d'analyse stratégique qui a été publié pour le séminaire gouvernemental sur l'atout pour la France à 10 ans, la proportion des Français qui se déclarent optimistes pour leurs enfants et les générations futures. Cette proportion est passée de 67% en 1993 à 39% en 2012. Dans une enquête de l'Ipsos en avril 2013 sur les Européens et la sortie de la crise, on constate un écart de 5 points entre la proportion des Français pessimistes pour l'avenir et la moyenne européenne. Et le fait est que 5 ans de crise et de hausse du chômage importante ont fragilisé le tissu social, ont fait augmenter les inégalités de revenus de façon importante et en tous les cas plus importante entre 2007 et 2010 qu'au cours des 12 années précédentes. La France a du mal à croire à son progrès. La croyance que les gains des uns se font au détriment des autres s'installe. Les dysfonctionnements du marché du travail expliquent, je le crois, je l'ai dit, grandement cette situation. Quelques chiffres. On est aujourd'hui à une moyenne de 29 ans pour accéder à son premier emploi en CDI. On a un taux d'emploi des seniors qui, même s'il a progressé, en passant de 35% à peu près 46%, entre 2002 et 2012, est quand même plus bas que la moyenne européenne. L'Allemagne se situe à 60% d'emploi de ses seniors, le Royaume-Uni 57%, la Suède 72%. Et clairement, dans ce taux d'emploi, on voit un frein important à la réforme des retraites. Et puis, il y a ce discours de la non-compétitivité de la France et de la nécessité de réduire les dépenses publiques, que les Français traduisent comme réduire la protection sociale, qui fait son chemin anxiogène, sans se matérialiser d'ailleurs par des mesures concrètes. 71% des Français pensent que les réformes provoquées par la crise auront des répercussions négatives sur la situation économique et sociale des Français. 74% des Français considèrent que la France sortira moins forte de la crise, alors que 66% de la moyenne européenne considère que l'Europe sortira moins forte de la crise. Alors ce blocage du marché du travail, que les Français ressentent d'ailleurs sans vouloir passer à l'acte et vouloir encore le changer, vient de nous être confirmé par la place de la France dans le classement du World Economic Forum et notre place passant du 20e rang au 23e rang. Alors ce classement est discutable, il peut être discuté, mais sur l'efficacité du marché du travail, la France se place au 71e rang et 116e rang spécifiquement sur les sujets de l'embauche, du licenciement et les problèmes entre employés et employeurs. Alors, pour analyser les spécificités du marché du travail français, je vous propose de le faire au regard des 4 grandes tendances du monde du travail dans le monde. Première tendance, c'est le déplacement de la croissance mondiale vers les pays émergents et l'adaptation nécessaire des produits et des modèles de production à la consommation de cette nouvelle classe moyenne. Deuxième grande tendance, c'est ce que l'on appelle le talent mismatch, le décalage entre l'offre et la demande, qui, dans le marché du travail, est accéléré par l'évolution démographique, les modes de recrutement des entreprises et cette tendance à l'hyperspécialisation des postes et des métiers. Troisième tendance, c'est l'impact des nouvelles technologies et en particulier l'impact du numérique sur les usages, sur les modèles de production et bien évidemment sur les métiers. La quatrième grande tendance, c'est bien évidemment la recherche continue de compétitivité. Faire plus avec moins n'est pas un sujet nouveau pour les entreprises, mais les prochaines étapes amènent à nouveau des changements et de nouvelles contraintes. Alors, face à ces quatre tendances, comment se situe le marché du travail en France ? Première tendance, je l'ai dit, l'évolution de la croissance mondiale vers les pays émergents. Dans 10 ans, la classe moyenne mondiale comptera entre 3 et 4 milliards de personnes, dont plus de la moitié résideront en Asie. Même si la croissance des pays émergents ralentit, la perspective d'une économie tirée par la consommation de la classe moyenne des pays émergents reste évidemment valide. On considère que cela représentera environ 70% de la croissance dans les 10 années à venir, et elle entraîne une part prépondérante des pays émergents dans les investissements internationaux. Alors, ces nouveaux consommateurs des pays émergents, cette nouvelle classe moyenne, a néanmoins un salaire moyen bien inférieur et bien décalé par rapport aux consommateurs ou la classe moyenne des pays dits développés. On n'atteignait pas encore 10 000 dollars pour un Chinois en 2012, alors que l'on était au-delà des 40 000 euros pour un consommateur moyen européen ou un Américain. D'où la nécessité, pour capter cette nouvelle demande, de concevoir des produits différents et de les construire près de ces marchés. Donc un déplacement d'une partie de la production vers ces pays et vers ces nouveaux produits. Du côté des pays développés, la demande change également, avec le développement des besoins d'une population qui est vieillissante et qui fait exploser la demande de ce que l'on appelle le care, c'est-à-dire les services à la personne pris au sens le plus large. Alors, les marchés du travail dans le monde ou subissent, ou suivent, ou anticipent cette nouvelle donne de l'économie mondiale. Pour la France, les enjeux sont de 4 ordres. Premier enjeu, c'est évidemment de faciliter les transformations en acceptant les restructurations des entreprises qui, elles, ont besoin de s'adapter à cette nouvelle demande. Deuxième enjeu, il s'agit de développer la compétitivité de l'outil de production, en particulier à l'intérieur dans le marché européen, qui reste théoriquement le plus accessible. On reviendra sur le sujet de la compétitivité, mais nous savons que nous avons perdu du terrain par rapport à l'Allemagne, en particulier sur ce domaine. Troisième enjeu, c'est le repositionnement de nos activités de production ou de recherche sur des phases amont, bien sûr amont en termes de conception et d'innovation, ou des nouvelles filières, en développant les compétences en recherche et développement et en accélérant le développement de l'emploi autour des pôles de compétitivité performants. Quatrième enjeu, il s'agit de s'attacher plus généralement à développer les emplois de service, qu'ils soient à plus forte valeur ajoutée ou de plus faible qualification, parce que ces emplois, qui se caractérisent par une organisation différente et un besoin plus grand de flexibilité, ont besoin d'une attention particulière pour se développer. Alors, quand on regarde la France par rapport à cette grande tendance mondiale, on constate qu'elle a deux handicaps majeurs face à ces exigences. La première, c'est bien sûr sa capacité à s'adapter. La rigidité du marché du travail a été pointée de multiples fois et par de nombreux rapports. Si nous avons fait des progrès en France au travers de la mise en place des ruptures conventionnelles ou l'accord interprofessionnel qui a été négocié en fin d'année dernière, les adaptations en France des entreprises se font encore dans la douleur, très clairement plus lentement qu'ailleurs et clairement beaucoup moins en anticipation. On voit une différence majeure sur ces sujets-là avec les États-Unis et des grands groupes qui arrivent à anticiper leur transformation pour capter en avance par rapport aux autres acteurs économiques, ces nouvelles demandes. D'autre part, face à cet enjeu de transformation, on a ce problème de la flexibilité sur lequel je vais revenir plusieurs fois, qui en France s'est créé en contingentant une part d'outsiders précaires dans une population active, mais qui en fait n'encourage pas la mobilité professionnelle de l'ensemble de la population active. C'est le premier grand handicap de la France face à ce grand mouvement économique mondial. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est plus intellectuel et qui fait qu'en France, on continue à opposer le sujet du développement des services avec le développement de l'industrie. Et que la tentation est forte et régulière de privilégier le développement de l'industrie par opposition au développement des services. Alors clairement, on a besoin des deux pour développer la valeur ajoutée, mais favoriser l'emploi en France passe d'abord par développer les services. D'abord parce que l'emploi industriel diminue d'un facteur d'au moins 10 entre deux générations technologiques. L'exemple que je prends très volontiers pour illustrer ce point est celui que j'ai personnellement vécu en tant que président d'IBM France lorsqu'il s'est agi de gérer un certain nombre d'investissements dans la filière des composants électroniques. Nous avions une usine à Corbeil-Essonne qui employait 3500 collaborateurs, dont le bagage de compétences moyen était des techniciens, disons Bac plus 3, et qui évidemment, avaient une productivité, un rendement très efficace. La génération d'après, l'usine que IBM a construit pour fabriquer les composants électroniques de la génération suivante comprenait moins de 100 personnes. C'était des ingénieurs, je dis souvent qu'ils étaient au moins Bac plus 7 ou Bac plus 9, donc des gens d'un niveau de qualification tout à fait différent. Mais la robotisation de cette nouvelle génération de production a amené à un emploi tout à fait différent de celui de la génération précédente. Donc, bien sûr, développer l'industrie est important pour développer la valeur ajoutée, mais il faut aller chercher l'emploi dans les services, et ces services, qu'ils soient services à très forte valeur ajoutée pour capter ces nouvelles opportunités de croissance. Or, ces services à très forte valeur ajoutée sont très largement délocalisables et il faut agir pour les attirer en France. Et les services de plus faible valeur ajoutée ne se développent, eux, que si la demande se structure et si celle-ci faire émerger un prix de revient, donc une compétition, une compétitivité des prix, qui pourtant est strictement liée au coût du travail. Aujourd'hui, on assiste, l'exemple du secteur des services à la personne est révélateur. La réduction des allègements de charges et de la niche fiscale, décision prise par le gouvernement il y a quelques mois, a provoqué, ou pas, la suppression de 13 000 emplois, en tous les cas la disparition de 13 000 emplois dans ce secteur-là. Alors, ils ont officiellement disparu, ils n'ont probablement pas totalement disparu, mais on voit bien la fragilité d'un secteur qui est très largement structuré autour du coût unitaire de l'emploi. Alors ça, c'est la première grande tendance, une production différente et une adaptation nécessaire du marché de l'emploi à cette nouvelle donne. La deuxième tendance qui structure les marchés de l'emploi dans le monde, c'est ce que l'on appelle le talent mismatch. Cet décalage entre la recherche et les demandes d'offres d'emploi faites par les entreprises et la capacité à trouver ces talents sur les marchés sur lesquels ils recrutent. Alors ce décalage, ce talent mismatch, s'explique par trois facteurs qui se conjuguent. Le premier facteur, c'est l'évolution démographique, en particulier dans les pays développés. Le deuxième facteur, ce sont les modes de recrutement et l'hyperspécialisation des postes de travail dans les entreprises. Et puis le quatrième facteur, c'est les aspirations individuelles des quatre générations au travail, parce que depuis jamais, je crois, nous avons eu, comme aujourd'hui, quatre générations qui se retrouvent dans les entreprises avec des attentes différentes. Alors on va prendre ces points un par un, regardons l'évolution démographique. La France n'échappe pas au phénomène de tous les pays développés et le ratio entre la population inactive rapportée à la population active va augmenter très sensiblement. Nous serons à l'équilibre en 2020, autant d'actifs que d'inactifs, et le ratio sera supérieur à 110 en 2030. Ce qui est intéressant, c'est cette tendance générale, avec deux exceptions qui me paraissent intéressantes à noter. Le premier, c'est les États-Unis, qui continuent à avoir une population active qui se développe et qui grandit, très clairement parce que leurs minorités sont en train de devenir des majorités, de se développer et contribuent à la natalité de ce pays. Deuxième exception, à l'envers, les pays émergents ont évidemment une population active qui se développe en général dans le monde, sauf la Chine, qui subit déjà et qui va souffrir très significativement de sa politique d'enfant unique et qui va décimer sa population active. Alors néanmoins, cette évolution démographique fait qu'effectivement un certain nombre de compétences, de métiers disparaissent et que pour se développer, les secteurs des services et de l'industrie vont peiner à trouver quantitativement dans nos pays et en France en particulier les compétences qu'ils recherchent. Deuxième facteur, ce sont les modes de recrutement et l'hyperspécialisation des métiers et des postes. Alors, il n'y a pas si longtemps, je me souviens encore, dans l'entreprise, on anticipait des plans d'embauche. On recrutait des jeunes pour que 6 mois après, 1 an après, ils soient productifs au sein de l'entreprise. Alors, je m'en souviens, mais il y a bien des années qu'aujourd'hui, les entreprises ne font plus comme celle-ci. Et en fait, aujourd'hui, on assiste de façon systématique à des recrutements que je vais qualifier de post-demand. C'est après que le besoin soit constaté, concrètement, que les entreprises vont recruter, parce qu'elles n'ont pas le choix d'anticiper des coûts, parce qu'elles n'ont pas le choix que de s'assurer que ce nouvel emploi est effectivement utile, puisqu'elles en engrangent les coûts. Alors, le résultat de ce phénomène est que la demande des collaborateurs, la demande se fait uniquement pour des collaborateurs immédiatement productifs dans leur poste de travail précis et formés à l'environnement dans lequel ils sont amenés à travailler. Alors évidemment, quand on recherche quelqu'un d'aussi spécialisé, d'aussi particulier par rapport à son propre environnement, on a des difficultés à recruter. Et qui donc va former ses collaborateurs pour qu'ils soient prêts à l'emploi à l'intérieur des organisations ? J'ai vu et constaté personnellement pendant ces dernières années passées chez Manpower Group à quel point le délai d'embauche, de pré-embauche pour les intérimaires raccourcissait. Une grande entreprise du secteur automobile avait l'habitude de demander une intégration des intérimaires sur des chaînes de production complexes à intégrer en termes d'outils de travail qui se situaient entre 35 et 45 jours. Les derniers mois passés à Manpower Group, c'était plutôt 10 ou 15 jours que l'on prévoyait pour intégrer une personne dans une chaîne de production. Vous imaginez bien que sans avoir fait ce travail au préalable, vous n'avez que peu de chances d'être retenu et d'être productif. Et ce phénomène est un phénomène systématique qui se généralise. Donc une hyperspécialisation des embauches qui évidemment ne trouve pas son pendant dans l'offre disponible sur le marché du travail. Troisième facteur, c'est des attentes, les attentes différentes par génération et individu. Quand on pose la question aux entreprises de la raison de leurs difficultés d'embauche, elles citent 2 fois sur 3 le facteur comportemental. C'est-à-dire qu'elles ne trouvent pas de candidats qui correspondent dans leur comportement, dans leurs attentes, à ce qu'elles recherchent ou ce qu'elles souhaiteraient. À vrai dire, on assiste à 4 générations du travail, je le citais tout à l'heure, qui ont toutes des attentes particulières. Il n'y a rien de commun entre les baby-boomers qui restent à l'intérieur de l'entreprise et cette génération Y qui est aujourd'hui dominante sur le marché du travail. Chacun a une attente différente par rapport à son travail et ses choix sont de plus en plus individuels et de plus en plus conflictuels entre ceux qui recrutent, qui sont rarement de la même génération que ceux qui sont recrutés. Alors, face à ce phénomène de diminution de la population active, la France devrait avoir un avantage relatif. D'abord parce que la France a eu longtemps et encore maintenant une natalité soutenue par rapport à ses voisins européens et les autres pays dans le monde. Deuxième chose, nous avons un taux d'emploi des femmes en France qui est supérieur là aussi à la moyenne européenne et au taux d'emploi des femmes dans la plupart des pays. Alors, Cet avantage relatif en matière de population active se heurte néanmoins à la nécessité de puiser des compétences dans ce réservoir de chômage qui est historiquement plus élevé de 2 points à celui de la moyenne de l'Europe du Nord. Nous avons certes une population active plus importante, mais elle est plus majoritairement, de façon plus importante au chômage. Alors, la France pêche plus que les autres à orienter, à former et intégrer ces jeunes dans le marché du travail. Deuxième chose, elle ne réussit pas à mettre en place une politique efficace d'accompagnement des chômeurs. Les jeunes, d'abord. Le système éducatif, aujourd'hui, ne compense ni la différence d'origine, ni la différence de milieu social, ni d'ailleurs une certaine ségrégation spatiale, c'est-à-dire qu'un fils de cadre a 12 fois plus de chances d'accéder à une classe préparatoire qu'un fils d'ouvrier, et c'est encore mieux s'il est parisien. Il n'existe pas de passerelle efficace entre le monde éducatif et le monde du travail, malgré des efforts importants faits en faveur de l'apprentissage. Ce manque de passerelle impacte encore plus négativement les moins formés, et d'ailleurs le développement de l'apprentissage de ces dernières années a plus bénéficié aux jeunes diplômés aux jeunes sans diplôme. Premier gros enjeu d'intégration des jeunes sur le marché du travail. On l'évoquait, difficile gestion du chômage en France. Cet écart historique de 2 points qui s'était réduit pratiquement en 2007 à 0 est maintenant de 4 points. Nous avons 4 points d'écart avec les pays du Nord. Et le poids du chômage de longue durée est passé maintenant à 38% de la population au chômage. À vrai dire, plus de 51% si l'on inclut dans cette proportion des chômeurs qui ont repris une partie d'activité réduite au cours des derniers mois. La durée du chômage reste 2 à 3 fois plus élevée en France que dans les pays du nord de l'Europe. Alors, clairement, la politique d'accompagnement et d'indemnisation des chômeurs reste un sujet, je vais dire, à résoudre en France. Face à ce chômage structurel, j'allais dire endémique, la France a opté pour un système que l'on va qualifier d'assurantiel. On compense par la générosité de l'indemnisation le risque chômage, qui est effectivement plus grave en France dans ses conséquences sur les individus. Les comparaisons avec les fonctionnements des équivalents de Pôle emploi au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, ont été faites à de nombreuses reprises. Donc on connaît les solutions. Mais on a beaucoup de mal à les appliquer. Première composante de la solution, c'est un renforcement du suivi des chômeurs en faisant appel éventuellement à des opérateurs privés et en se focalisant sur les publics les plus fragiles. C'est clairement aujourd'hui l'orientation que prend Pôle emploi, on peut le saluer. Néanmoins, on prend cette orientation assez tardivement. Deuxième solution, c'est la nécessité de mettre en place des systèmes incitatifs à la reprise du travail. Et ce, au travers plutôt de la dégressivité des allocations que de l'obligation à accepter une offre de travail. C'est tellement facile de ne pas avoir d'offre de travail quand l'on ne veut pas prendre un travail, qu'évidemment, cette idée d'obliger un chômeur à prendre un travail ne peut pas fonctionner. Et tous les systèmes de l'Europe du Nord consistent à jouer plutôt sur la dégressivité des allocations de chômage. Évidemment, décision difficile à prendre dans une situation économique comme celle de la France aujourd'hui. Troisième volet des solutions pour résoudre le chômage, c'est l'allocation des fonds de formation professionnelle aux transitions professionnelles plutôt qu'à la formation des personnels en poste. Aujourd'hui, nous avons une situation tout à fait particulière en France. Notre système de formation professionnelle est tout à fait unique. Nous y consacrons 32 milliards d'euros. Et nous ne consacrons que 1% des fonds de la formation professionnelle vers les chômeurs. Clairement, en orientant si peu de la masse financière pour la formation professionnelle, nous ne pouvons aider à la réintégration des chômeurs dans le monde du travail. Alors, sur ce sujet de la population active et du décalage entre l'offre et la demande sur les marchés du travail, on peut mentionner un sujet important, mais qui est extrêmement difficile politiquement, qui est celui de la politique de l'immigration choisie. La France, sur ce sujet, n'échappe pas à un débat politique extrêmement difficile. Pour autant, on peut noter qu'un certain nombre de pays dans le monde, et en particulier les États-Unis, qui ont un débat général sur ces sujets de l'immigration, ont été malins, pertinents, en attirant aux États-Unis, sur des filières d'excellence très précises, un certain nombre d'étudiants étrangers, et en particulier en provenance des pays émergents, la Chine et l'Inde. Alors je ne suis pas capable de vous citer la proportion des étudiants du MIT qui sont indiens, mais ils sont très très significatifs. Et nous avons eu beaucoup de mal. Nous consacrons sur les pays francophones et nous avons eu des hésitations sur la politique de permis de travail pour ces étudiants étrangers qui sortent des universités. On peut constater une différence majeure avec ce que font par exemple les USA sur le domaine de l'informatique et du numérique. Alors, troisième tendance qui permet d'analyser les marchés du travail, c'est la façon dont ils s'adaptent ou ils intègrent les révolutions technologiques en cours, et en particulier cette révolution qu'amène le numérique dans les organisations et dans les processus. Comme pour le sujet de la compétitivité du travail, les rapports sur le sujet du numérique abondent. Tous dénoncent un retard de la France dans ce domaine. Ce qui me gêne sur ce sujet, c'est qu'il reste systématiquement traité sur l'angle infrastructure, et que tous, d'ailleurs, réclament à grands cris l'action des pouvoirs publics. Alors, bien évidemment, ce sont des sujets importants, et l'infrastructure compte, mais il y a un enjeu extrêmement important et majeur, j'allais dire, autour des compétences, des usages et de la transformation des entreprises et de leurs organisations pour qu'ils s'ouvrent aux usages du numérique. L'enjeu est bien sûr autour de la création des compétences du numérique en tant que secteur technologique, et le Syntec numérique est très porteur de cet enjeu, mais il est plus important encore autour des compétences et des attitudes nécessaires à l'adoption du numérique dans les processus de l'entreprise. Il s'agit en fait d'adapter le système éducatif et les filières au numérique. Je regrette que la stratégie numérique pour l'école de Vincent Peillon privilégie l'équipement en tablette ou l'enseignement obligatoire de l'informatique, alors qu'il me semble que le vrai sujet est la transformation des méthodes pédagogiques et des filières elles-mêmes. Nous avons des enseignements d'excellence en mathématiques qui sont évidemment importants dans le numérique, mais nous n'avons pas aujourd'hui un enseignement d'excellence autour du numérique qui pèse en poids et en visibilité sur la scène internationale, et ce, encore une fois, malgré l'excellence de nos cursus en mathématiques et en ingénierie. Il n'y a, par exemple, aucune filière de formation sur l'analyse de données, qui est en train de devenir et qui va devenir un secteur aussi large à terme que la filière commerciale. Et là, à nouveau, la différence avec les États-Unis se fait. Aux États-Unis, les pouvoirs publics favorisent des partenariats publics-privés entre des grands acteurs du monde du numérique et des universités pour développer ces nouvelles filières autour de ce que l'on appelle le big data, le marketing digital et le développement d'applications mobiles. Donc, premier enjeu sur le domaine des révolutions technologiques, c'est évidemment l'éducation. Le deuxième corollaire, c'est la réforme de la formation professionnelle. Il faut adapter les métiers à ces nouveaux usages. On a parlé de l'orientation des budgets vers le soutien de parcours professionnels. Il faut aussi mettre ce secteur, j'allais dire, sous pression concurrentielle pour qu'aucune rente ne lui permette de privilégier la protection de ses infrastructures actuelles au détriment de la pertinence de ses formations et, je dirais, de l'adaptation aux nouveaux métiers de demain. Cet enjeu d'adapter les formations et l'emploi est de taille. Il y a des impacts, on a dit, créateurs d'emplois autour de la filière numérique, mais il y a aussi des impacts destructeurs importants à venir. On peut considérer que les métiers de la maintenance seront très largement touchés par les impacts du numérique. Les métiers de la relation client le seront très largement aussi. On remplacera les call centers par d'autres façons d'interagir et de répondre aux clients. Les métiers du marketing seront totalement bouleversés par les usages par leur digitalisation. Un enjeu important d'adaptation des métiers et des organisations. Quatrième tendance qui permet d'analyser l'évolution du marché du travail, c'est la compétitivité, faire plus avec moins. Alors, rien de nouveau dans ce domaine. Les avis ont été répétés, le FMI récemment, l'OCDE, le World Economic Forum, tous pointent sur le sujet de la compétitivité du marché du travail, qui a été très largement couvert au moment de la publication du rapport Gallois. On peut rappeler qu'il y a quatre leviers pour qu'un marché du travail soit compétitif. Le premier, c'est évidemment le coût unitaire du travail, le plus évident. Le deuxième, c'est la flexibilité du marché du travail qui permet à une organisation du travail d'être compétitive. Le troisième, ce sont les compétences disponibles. Et puis le quatrième, c'est l'usage du marché du travail et le climat social, sa facilité, la facilité avec laquelle on utilise ce marché du travail. Alors, le coût unitaire du marché du travail a été, là aussi, très largement abordé depuis très longtemps. Et on pourrait tout simplement résumer en disant que, certes, la France est productive, mais que le coût horaire de travail s'est dégradé, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne. On l'a dit beaucoup dans l'industrie, mais il faut savoir que c'est aussi très vrai dans les services. Alors, plutôt que de parler de cette comparaison unitaire, je voudrais, pour être un peu plus spécifique, pour un peu plus concrète, évoquer la façon dont les autres pays ajustent leur coût du travail. Première méthode, c'est une vraie capacité à réajuster rapidement les salaires d'une entreprise ou d'un secteur à la baisse quand il y a une urgence économique. Alors c'est le cas aux États-Unis où très rapidement les collaborateurs d'une entreprise sont convoqués pour revoir leur salaire et je dirais sans plus de négociation. C'est vrai aussi au Royaume-Uni. Le processus est plus et moins brutal en Allemagne, mais il est aussi efficace depuis la réforme du marché du travail en Allemagne. Et c'est également possible aujourd'hui en Espagne qui est en train de très clairement de faire des progrès importants dans le coût unitaire du travail. Premier levier très très direct. J'ajuste les salaires lorsque je ne peux plus me permettre de les payer à ce niveau-là. Deuxième méthode, c'est l'organisation par filière d'une sous-traitance que je vais qualifier de nearshore. Vous me pardonnerez cet anglicisme, c'est-à-dire une plateforme, une organisation du travail délocalisée avec un pays voisin qui n'est pas aussi éloigné qu'un pays émergent, mais qui permet globalement de diminuer le coût d'un processus de production ou d'une organisation. C'est clairement de cette façon que l'Allemagne a réussi en travaillant avec les pays de l'Est à être attractive dans des filières de services, par exemple dans le domaine de l'industrie de la viande, de l'agroalimentaire. L'Allemagne est aujourd'hui une partie importante de la demande européenne. Mais ces plateformes ont été organisées par les États-Unis avec le Mexique, ont été organisées aujourd'hui et s'organisent entre le Japon et les Philippines. Et on voit des structures, des filières, devenir compétitives au travers de ces nouvelles organisations du travail. Troisième levier pour ajuster les coûts du travail d'une organisation ou d'un secteur, c'est le développement de ce que l'on appelle les freelances, en général dans des filières à forte valeur ajoutée. C'est le cas de l'informatique, de la recherche et de le développement. Et aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, le taux de travailleurs indépendants atteint 35%, voire 50% dans un certain nombre de filières. Quatrième levier, la mobilité professionnelle, qui fait, et on l'a évoqué tout à l'heure, mais qui a une vertu extraordinaire, qui fait converger les salaires vers un prix marché et qui permet de gommer cet effet d'ancienneté qui coûte et qui est assez redoutable dans un certain nombre de filières. Donc quatre méthodes pratiques avec lesquelles les entreprises et les secteurs économiques se sont organisés pour que collectivement leur outil productif soit plus compétitif, alors qu'en France, on aborde ces sujets avec beaucoup de prudence. Alors c'est essentiellement en développant l'intérim, en développant les contrats à durée déterminée, en partie en particulier les contrats, les CDD de très très courte durée et les CDD d'usage, dont vous savez qu'ils n'ont pas de contraintes particulières en matière de salaire de référence, que les entreprises ont principalement travaillé le coût de leur main-d'œuvre prise au sens général. Aujourd'hui, c'est 80% des embauches qui se font en CDD. C'est-à-dire que notre façon de travailler la compétitivité de l'emploi dans les entreprises a renforcé ces dernières années la dualité du marché du travail. Et que nous n'avons toujours pas attaqué la productivité de ce que j'appelle les insiders, ceux qui sont à l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, et qui restent protégés par la façon dont le marché du travail s'est organisé en France. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le pourcentage de CDI a un tout petit peu baissé ces dernières années sur le marché du travail, mais qu'il reste à 84% de la population active, c'est-à-dire que ce problème de mobilité, la mobilité professionnelle de ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise reste encore un sujet important dans le marché du travail. Je voudrais faire remarquer aussi le blocage autour de ce que j'appelle le dogme de l'emploi salarié. Vous me pardonnerez cette expression un peu provocante, mais aujourd'hui, on ne conçoit en France l'emploi que comme un emploi salarié, alors que, je le disais, un certain nombre de filières se sont organisées dans le monde en faisant se développer ce statut d'auto-entrepreneur que nous avons beaucoup de mal à conserver et à protéger en France, et ce, je dirais, au prix, dans un certain nombre de cas, d'encourager implicitement un secteur non formel, notamment sur les plus faibles qualifications. Alors, ça, c'est pour le coût du travail. La flexibilité est évidemment également un contributeur important de la compétitivité des marchés du travail dans le monde. Aujourd'hui, c'est, je le pointais, c'est par manque de mobilité professionnelle structurelle que cette flexibilité se gère par défaut. Je trouve révélateur que la négociation de l'accord interprofessionnel de l'année dernière, qui avait la flexibilité au cœur de sa discussion, se soit conclu par certes des restructurations plus faciles pour les grandes entreprises, ce qui est évidemment quelque chose d'absolument critique pour l'avenir du marché du travail en France, mais que en contrepartie de ces restructurations plus faciles, les mesures que les syndicats ont réclamées, c'est la taxation des contrats courts et l'ajout d'une couverture maladie complémentaire, qui est certes un sujet tout à fait respectable, mais qui l'est peut-être moins que de travailler sur l'employabilité de tous les collaborateurs dans l'entreprise et la portabilité des droits de formation. Quatrième sujet sur la compétitivité du marché, d'un marché du travail, c'est les compétences. Alors je l'ai déjà évoqué à de multiples reprises, j'espère ne pas me répéter. Les compétences du marché du travail et des compétences françaises ont été très longtemps un atout qui motivait les investissements étrangers en France. C'était clairement un argument que je développais avec beaucoup de passion et de conviction à l'intérieur de la grande organisation IBM. Aujourd'hui, je crois que nous sommes en phase de décrochage. Ça ne veut pas dire que nous sommes décrochés, mais il faut nous mobiliser. Et vous avez vu, bien sûr, que les études PISA mettent en évidence depuis plusieurs années le décrochage de la France en matière d'efficacité de son système éducatif. Nous sommes aujourd'hui 24e sur les 27 pays notés dans l'étude PISA. Et clairement, il nous faut avancer pour intégrer plus de jeunes dans le marché du travail et avancer sur la réforme de la formation professionnelle. Il s'agit aussi de responsabiliser les Français sur leurs compétences professionnelles. Il est intéressant de noter que les Français comprennent et la difficulté d'intégrer des jeunes dans le marché du travail ne fait que conforter leur conviction que l'éducation est évidemment une carte importante pour pouvoir s'intégrer dans le marché du travail. Par contre, une fois à l'emploi, les Français, quand on compare avec notamment les collaborateurs européens, sont moins persuadés qu'il leur faut gérer eux-mêmes et leur employabilité. Or, un certain nombre de pays ont pris des mesures relativement intéressantes. Et par exemple, le Danemark consent un avantage fiscal individuel à un citoyen qui va dépenser lui-même pour se former et pour continuer à travailler son employabilité. Une responsabilisation importante des individus est importante aussi pour développer les compétences en France. Alors le climat social est un quatrième facteur d'efficacité que regardent en général les investisseurs quand ils s'apprêtent à créer une structure de production, qu'elle soit industrielle ou de service. On va éviter le sujet de la qualité de la gestion du dialogue social en France. Je pense qu'il a été largement couvert. On sait que nous n'avons pas un dialogue social idéal, en tous les cas moins efficace que certains pays du Nord. Et clairement, nous ne l'avons pas résolu par la loi de représentativité des organisations syndicales à l'intérieur des entreprises. Nous avons cette loi va dans le bon sens, mais nous avons laissé quelques poches particulières, et je pense en particulier à la représentativité des CHSCT, qui est aujourd'hui une organisation mal définie dans son rôle dans les entreprises et qui reprennent le relais de ce mauvais dialogue social qui freine plus qu'il n'accompagne les transformations de l'entreprise. Alors je voudrais pointer aussi, quand on parle du climat social, les fractures de motivation que l'on a systématiquement constatées dans les groupes mondiaux entre les Français et le reste des employés mondiaux. Le sujet des risques psychosociaux est un sujet qui n'est pas absent des discussions autour du marché du travail dans les autres pays européens ou dans le monde, mais il a pris en France une proportion tout à fait particulière. 69% des Français considèrent qu'ils travailleraient plus dur s'ils étaient mieux considérés. Le paradoxe est grand. Nous avons une population au travail très largement protégée quand elle est à l'intérieur de l'entreprise. Elle n'en est pas plus heureuse pour autant. Et elle vit mal la situation de tension qu'elle ressent indirectement. En fait, je crois que les dysfonctionnements du marché du travail complexifient le management de l'entreprise. Ils pèsent en particulier sur le management de première ligne, les managers de proximité, qui sont soumis à une complexité de gestion de leurs équipes tout à fait particulière et qui ne sont pas suffisamment formés pour y faire face. Et cela pèse sur le climat des entreprises. Cet élément, je l'ai vu à plusieurs reprises et de plus en plus pris en compte par les entreprises et les groupes internationaux dans leurs décisions d'investissement. La France apparaît comme un pays complexe, et y compris dans son fonctionnement au quotidien, autour de ce climat social. Alors ma conclusion sera évidente, nous vivons dans une période de mutation profonde, ce n'est pas une révélation. Le monde sera bien sûr bien différent après la crise, pour quelques périodes que l'on anticipe. Le bon fonctionnement du marché du travail est une condition pour que la France trouve sa place dans ce nouvel environnement et continue à se développer. Nous savons parfaitement ce que nous devons changer. Les points qui sont revenus tout au long de mon exposé tournent autour de l'éducation, de la formation tout au long de la vie. Ils tournent autour de la compétitivité du marché du travail et la flexibilité de ces organisations. Ils tournent autour de l'intégration des jeunes et de l'employabilité des seniors. Et ils tournent autour de l'accompagnement des parcours professionnels. Le blocage d'aujourd'hui vient certainement de la mauvaise explication de la marche de la mondialisation et de la prise de conscience par tous les Français que c'est un fait et non une option. Et cette prise de conscience provoque évidemment un choc dans une opinion publique qui n'est pas préparée à des réformes fondamentales. Je pense que la question est maintenant de savoir comment on va pouvoir rattraper le temps perdu et amener les esprits à l'acceptation de nouvelles règles, parfois peut-être en rupture, tout en gardant la confiance en l'avenir, parce que la France a tous les atouts, évidemment, pour avoir sa place dans la compétitivité mondiale dans le futur.